podcast RFHT.
Bonjour, je me présente, je suis le docteur Benoît Guillet, médecin hématologue spécialisé en hémostase bioclinique et médecin coordonnateur du Centre Maladies Rares pour les maladies hémorragiques chroniques de Rennes. Ma principale thématique de recherche concerne le facteur 8 et l'hémophilie. Depuis maintenant 20 ans, plusieurs grands registres européens, ITCH ou français, SACHA, ont permis d'avancer dans la compréhension de cette maladie rare, en particulier sur le plan épidémiologique et thérapeutique qu'est l'hémophilie acquise. Le traitement de l'hémophilie acquise comprend classiquement un volet anti-hémorragique dont nous parlerons lors d'un autre échange et un volet immunosuppresseur. C'est justement de ce dernier volet dont nous discuterons dans cet échange avec le professeur Hervé Lévesque, qui connaît parfaitement bien le sujet. Donc, cher Hervé, avant de commencer, peux-tu te présenter brièvement ?
Oui, je suis le professeur Hervé Lévesque, spécialiste en médecine interne, coordinateur du Centre sur les maladies auto-immunes et inflammatoires rares de Haute-Normandie. Une de mes thématiques de recherche est effectivement l'hémophilie acquise. J'ai coordonné le registre prospectif SACHA, co-coordonné le registre européen ITCH2 qui a regroupé 502 cas d'hémophilie acquise dans 13 pays européens et qui a permis de préciser les principales données épidémiologiques de cette maladie rare ainsi que les axes thérapeutiques à devoir proposer tant pour traiter les complications hémorragiques que pour éradiquer l'inhibiteur. Plus récemment, j'ai pu obtenir un PHRC qui est en fait la première étude prospective randomisée contrôlée qui compare deux schémas thérapeutiques d'immunosuppression dans cette indication, cette étude s'appelant l'étude CREA.
Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La prescription d'un traitement immunosuppresseur doit-elle être systématiquement envisagée dans l'hémophilie acquise et pourquoi ?
Question vraiment importante. En effet, il existe maintenant un consensus fort pour considérer que tout patient chez lequel le diagnostic d'hémophilie acquise a été confirmé par la biologie, je vous rappelle qu'on considère que le diagnostic est porté lorsqu'un facteur 8 est inférieur à 30% et qu'on est en présence d'un inhibiteur dont le taux est supérieur à 0,6 unité Bethesda, que ce patient doit bénéficier le plus tôt possible d'un traitement immunosuppresseur, et ce, même si le patient est asymptomatique, et ce, quel que soit le contexte clinique, le taux de facteur 8 résiduel ou le titre d'inhibiteur. Le développement de traitements anti-hémorragiques efficaces, à savoir les agents bypassants, et l'introduction précoce d'un traitement immunosuppresseur explique la baisse considérable de la mortalité, notamment hémorragique, qui est passée de 25% à moins de 3%.
Il s'agit donc d'une maladie hémorragique qui est encore potentiellement grave et qui nécessite d'être rapidement éradiquée. Peux-tu nous en rappeler le traitement immunosuppresseur de première intention, sur quels arguments et quand le prescrire ?
Effectivement, c'est une maladie hémorragique qui peut engager le pronostic vital et qui impose l'introduction dès que possible d'un traitement immunosuppresseur qui doit associer au minimum une corticothérapie à forte posologie et on commence habituellement à 1 mg kilo jour, éventuellement associé d'emblée à un autre immunosuppresseur et notamment les cyclophosphamides ou le rituximab. Cela permet une disparition de l'inhibiteur en 4 à 6 semaines dans près de 80% des cas.
Et quels sont les effets secondaires attendus de ces traitements ?
Effectivement, tout traitement immunosuppresseur, notamment si le sujet fragile ou âgé, n'est pas dénué de risque. À côté du risque de rétention hydrocellée, d'hypokaliémie ou de décompensation d'un diabète, il faut insister chez ces sujets souvent âgés sur les troubles psychiatriques induits non rares et surtout sur le risque infectieux. Aujourd'hui, les données récentes des registres montrent une morbidité-mortalité iatrogène dépassant la morbi-mortalité hémorragique, d'où la tendance actuelle à s'orienter vers un traitement personnalisé.
Alors, quel serait le traitement de seconde intention ?
Alors, plutôt que de parler de traitement de seconde intention qui peut s'avérer nécessaire en cas d'échec des corticoïdes en monothérapie, il faut aujourd'hui proposer des traitements dits personnalisés qui doivent tenir compte du terrain, à savoir les comorbidités, et surtout du taux de facteur 8 résiduel et du titre d'inhibiteur. Une étude rétrospective française et une étude prospective non randomisée, non contrôlée allemande d'escalade thérapeutique incitent à proposer, c'est les suggestions et recommandations nord-américaines confirmées récemment lors des recommandations européennes, avec une corticothérapie initiale isolée lorsque le terrain est considéré comme très fragile et surtout en cas de facteur 8 résiduel dosable associé à un titre d'inhibiteur inférieur à 20 unités Bethesda. Et on propose cela pendant 3 à 4 semaines et on réévalue. Dans les autres cas, il est suggéré de proposer une bithérapie d'emblée par corticoïdes et un autre immunosuppresseur, à savoir le cyclophosphamide, Peros, à une posologie de 1,5 à 2 mg kg au jour, ou du rituximab, selon le schéma dit hématologique, à savoir 375 mg par mètre carré, une fois par semaine, pendant 4 semaines. Il faut cependant signaler qu'il s'agit d'un avis d'expert reposant sur des données de registre ou de séries non contrôlées. Une analyse récente de la Cochrane Review signale que l'absence d'études ne permet aucune conclusion quant au recours ou à la place éventuelle du rituximab au cours de l'hémophilie acquise.
Merci Hervé pour ces précisions claires et très utiles en pratique. Peux-tu nous donner quelques informations cette fois-ci sur ton étude thérapeutique CREA et nous en résumer les résultats qui sont en cours de publication si je ne me trompe pas?
Oui, effectivement, l'étude a terminé ses inclusions et on est à 18 mois de suivi. Les analyses sont en fin de validité. Donc, l'objectif de cette étude prospective, randomisée, contrôlée, qui est financée par un PHRC, qui est de fait totalement indépendant de l'industrie pharmaceutique, a pu inclure en 5 ans 110 patients, dont 108 ont pu être randomisés dans deux schémas thérapeutiques, à savoir corticoïdes plus cyclophosphamide ou corticoïdes plus rituximab, avec une évaluation à 6 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an et 18 mois. À la sixième semaine, le clinicien, en cas d'échec ou d'efficacité considérée comme insuffisante, avait le choix de poursuivre le traitement ou de changer d'immunosuppresseur. En fait, qu'avons-nous observé? Eh bien, on observe que on a un taux de rémission à 3 à 6 mois de plus de 70%, un délai moyen de rémission de 50 jours dans les deux groupes, avec 9 décès dans chaque groupe, soit aucune différence en termes d'efficacité entre les deux immunosuppresseurs, à savoir l'andoxan ou le cyclophosphamide, en plus des corticoïdes. Mais, et ça c'est très statistique, on retrouve plus de complications infectieuses graves dans le groupe rituximab. Il faut quand même signaler que 60% des patients avaient des facteurs dits de bon pronostic, à savoir un taux de facteur 8 dosable et un titre d'inhibiteur inférieur à 20 unités. Cependant, l'analyse des sous-groupes bon pronostic ou mauvais pronostic ne donne aucune différence en termes de nombre de rémissions complètes. Les données de suivi à 18 mois viennent de tomber. C'est prématuré pour que je vous les donne, mais ça confirme l'impression initiale.
Alors, encore merci Hervé. Je pense que cette étude va faire date hein, dans l'hémophilie acquise, donc on attend impatiemment la publication. Concernant les immunoglobulines intraveineuses, on connaît malheureusement leur pénurie depuis de nombreux mois. Cependant, ont-elles un intérêt dans l'hémophilie acquise?
Oui, c'est une question qui est intéressante. Il y a quelques années, quelques données ponctuelles, notamment en France, suggérant une certaine efficacité en plus de la corticothérapie. En fait, quand on reprend les données de la littérature, il y a une seule étude détaillée de 15 patients qui conclut la non-efficacité des immunoglobulines dans cette indication et les recommandations nord-américaine et européenne suggèrent leur non-utilisation. Il n'est pas inutile de rappeler que le tableau récent que nous a fourni l'ANSM, qui a été validé par les différentes sociétés savantes et les centres de référence, classe l'hémophilie acquise comme une indication non justifiée ou non acceptable des immunoglobulines, a fortiori dans cette période de pénurie d'immunoglobulines.
Au moins, c'est clair. Quels autres traitements non immunosuppresseurs peuvent être envisagés dans l'hémophilie acquise pour éliminer rapidement les anticorps anti-facteur 8?
Alors, en fait, il n'y a que très peu d'autres alternatives. Et ça, c'est plus en cas d'échec des traitements anti-hémorragiques. On peut proposer des échanges plasmatiques ou dans les centres qui en bénéficient de techniques d'immunoabsorption qui peuvent être discutées. De même, le recours à du facteur 8 pour induire une tolérance immune qui est proposé dans certains cas d'hémophilie constitutionnelle avec inhibiteur ou réalisé dans certains pays, notamment en Hongrie, ne sont pas du tout recommandés par les experts et cela a été confirmé lors des dernières recommandations.
Revenons au traitement de première intention, corticoïdes plus cyclophosphamide. Prenons la situation où tu viens de l'utiliser chez un patient avec une efficacité très rapide, disons l'apparition complète de l'inhibiteur en 3 semaines. Comment adaptes-tu ensuite la posologie? Quels paramètres de surveillance utilises-tu?
Alors, le raisonnement actuel, c'est de faire un peu comme dans le purpuratum opénique idiopathique, à savoir l'arrêt rapide des corticoïdes et globalement, lorsque le patient est en rémission, on recommande d'arrêter sur 4 semaines, mais surtout, il est important d'assurer une surveillance, notamment la première année, puisque le taux de rechute dans toutes les cohortes va de 8 à 12%, les 3/4 des rechutes survenant la première année.
Pour finir, quel traitement recommandes-tu en cas d'échec du traitement immunosuppresseur ou en cas de rechute?
Alors, en cas de rechute, la réponse est aisée. En effet, il paraît logique de reprendre le même traitement qui a permis d'induire la rémission. Là encore, il faut tenir compte du titre d'inhibiteur et du taux de facteur 8 résiduel. C'est-à-dire que si la surveillance montre que vous avez une rechute avec un taux d'inhibiteur faible et un facteur 8 dosable, eh ben, on ne fera qu'une corticothérapie seule. À l'inverse, si on a les critères plutôt de gravité, eh bien, on proposera une bithérapie. Beaucoup plus difficile, c'est l'échec. Et là, dans cette situation, on a 2 cas possibles. Soit le malade n'est pas encore en rémission complète et les experts parlent de rémission partielle. C'est défini par l'absence de manifestation hémorragique, une baisse du taux d'inhibiteur et un taux de facteur 8 qui est supérieur à 30%. Et bien dans cette éventualité, on dit qu'il faut poursuivre le même traitement et on réévalue 6 semaines plus tard. Dans les autres cas, et souvent on attend le 3e mois pour parler d'échec thérapeutique, les experts conseillent de changer d'immunosuppresseur, c'est-à-dire de passer au rituximab si le traitement initial était le cyclophosphamide, et inversement. Néanmoins, il n'est pas inutile de rappeler que le blocage lymphocytaire B sous rituximab est prolongé de près de 10 à 12 mois, ce qui n'est pas sans poser problème lorsqu'on va introduire un nouvel immunosuppresseur s'il y a une rechute. Certains recommandent le recours au mycophénol-mofétil, le MMF, mais avec des données de la littérature qui sont très, très peu convaincantes. L'autre alternative pourrait être de jouer sur le lymphocyte T, non pas sur le lymphocyte B, en utilisant peut-être la cyclosporine. Et on a quelques données positives dans la littérature. Cependant, dans des situations difficiles, je pense qu'il n'est pas inutile de s'entourer de l'avis d'experts sur le sujet.
Merci pour cet échange qui devrait être très utile pour la prise en charge des patients avec hémophilie acquise. Alors, nous n'avons pas abordé ici le tableau très particulier d'hémophilie acquise du postpartum. Un podcast spécifiquement dédié vous sera donc proposé au début de l'année 2022. Merci à tous. Merci Hervé. Au revoir.
Podcast RFHT.